Eh bien bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur Glissando, Radiographie 94.9. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité qui joue du violon comme moi, mais c'est pas tout à fait le même puisqu'il fait du violon jazz. Alors je vais vous le présenter, mon invité. Il s'appelle Jonathan Zerbib. Bonjour Jonathan.
Bonjour Isabelle.
Tu vas bien ?
Très bien, merci beaucoup. Et toi ?
Alors écoute, présente-toi, ce sera plus simple.
Nous on se connaît depuis que je suis beaucoup plus jeune, puisque j'étais en cours de violon avec toi.
Enfin t'es quand même pas beaucoup plus vieux.
Et donc oui, du violon jazz en région Picarde depuis pas mal d'années. Et puis là, depuis septembre, j'ai intégré l'école de Didier Lockwood à Melun, du coup.
Alors ça, on en reparlera tout à l'heure, si tu veux bien.
Avec plaisir. Hein, ouais.
Voilà. Alors c'est vrai que d'abord, tu étais plutôt violon classique, non ? Un petit peu ? Quelque chose comme ça ?
Oui, pas beaucoup. J'étais pas très assidu quand j'étais ado. Oui, et puis la découverte du jazz, ça s'est fait par des rencontres.
Ouais, petit à petit.
Ouais, quand j'avais entre 20 et 30 ans, c'est devenu une évidence.
Voilà, et maintenant tu peux plus t'en passer, j'ai l'impression.
Et puis maintenant, à l'inverse, j'aimerais avoir du temps pour travailler le classique aussi.
Voilà. Bon, écoute, il faut en trouver, c'est tout.
Voilà, c'est ça.
Alors aujourd'hui, vous avez compris, on va parler jazz et jazz manouche. Et aussi pour proposer la fête de la musique qui aura lieu le 21 juin. Mais c'est cette fête qui est proposée par le Festival des Forêts. Et alors ce qui va être formidable, c'est que ça va être au bord de l'eau. Ça va être dans le club d'Aviron, qui est au bord de l'Oise. Un très très beau club d'ailleurs, parce qu'ils vont avoir peut-être des champions olympiques. En tout cas, il y en a qui vont y aller. Et c'est un club que j'aime beaucoup. Mon fils y a fait d'ailleurs des compétitions là-bas. Et c'est un club très dynamique, très sympathique, qu'il faut vraiment aussi encourager. Voilà. Et donc on est très heureux d'aller jouer pour la deuxième fois là-bas au bord de l'eau. Alors pour commencer justement avec le jazz, je vais te proposer le plus phénoménal des enfants prodiges de son temps. Il s'appelle Yasha Aifetz. Voilà. Il était né en fait en Lituanie, en Vilnius, en 1899. Son père, il était violoniste de la ville et il n'a pas manqué de reconnaître et de développer aussi les facultés de son fils en l'aidant justement, mais c'est devenu vraiment un très très grand violoniste. En 1907, le célébrissime Leopold Auer, qui a fait une célèbre méthode de violon, qui était de passage justement à Vilnius, a entendu cet enfant prodige et il était tellement étonné qu'il a qualifié son interprétation du 24e caprice de Paganini de tour de sorcellerie. Alors tu vois, ça devait être vraiment quelque chose d'incroyable. Alors pour commencer cette émission, eh bien moi je vais vous proposer justement Summertime, qui était joué déjà par Yasha Aifetz.
Thank you.
On peut dire que pour un violoniste fin 19e, début 20e, c'était pas vraiment le jazz qui était à la mode à cette époque, mais c'est quand même pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, c'est très beau.
Voilà, il fallait le faire. Il fallait oser aussi à cette époque. Hein. Je pense que c'était beaucoup plus classique dans l'esprit. Donc, je trouve que c'était un peu novateur. Alors, il y a eu un autre grand violoniste qui s'appelle Yehudi Menuhin, d'origine américaine. Alors, lui, il est né en 1916 à New York et mort à Berlin en 1999. C'était aussi un enfant prodige, décidément. Il y en a beaucoup sur Terre. Moi, je suis très jalouse. Il s'est produit, il avait 11 ans à Paris avec l'Orchestre Lamoureux, oui. Et à New York au Carnegie Hall. Alors quand même, vous voyez, c'est vraiment... Il est toujours d'ailleurs considéré comme l'un des plus grands violonistes du XXe siècle. Alors lui, il va aussi nous interpréter une œuvre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tea for Two. C'est chouette aussi, hein, ce Tea for Two.
Ouais.
En fait, on voit que ça swing déjà beaucoup plus. Hein. Eiffet, s'il était forcément dans une conception plus classique, là, ça swing déjà beaucoup plus. Et puis, vous avez entendu qu'il n'était pas tout seul. Eh bien, on va continuer avec un nouveau violoniste qui s'appelle Stéphane Grappelli.
Yes.
qui est né en janvier 1908 à Paris et mort en décembre 1997, violoniste, pianiste et jazzman italo-français. Il fait bien sûr partie des plus grands violonistes de jazz du XXe siècle et il a créé le quintet du Hot Club de France avec...
Avec Django Reinhardt.
Voilà, parfait, parfait. Sa mère est morte alors qu'il n'avait que 4 ans. Alors vers l'âge de 12 ans, il commence seulement à jouer du violon dans les rues, dans les cours d'immeubles, pour apporter un peu d'argent à la maison. Il débute sa carrière professionnelle seulement en 1923, comme violoniste et pianiste dans les cinémas pour accompagner les films muets. En 1931-32, il joue dans l'orchestre du club La Croix du Sud, dirigé par André Équian, à côté de Django Reinhardt et Alix Combel. Du coup, Stéphane Grappelli et Django Reinhardt créent le quintet Hot Club de France avec le contrebassiste Louis Vola, ainsi que Joseph Reinhardt, le frère de Django, et Roger Chaput, tous deux à la guitare. Un violon, une contrebasse et 3 guitares, le quintet était né. Dans les années 1920-1930, il joue dans de nombreux orchestres, plus souvent d'ailleurs au piano qu'au violon. Il est notamment très présent d'abord comme pianiste, puis comme violoniste dans l'orchestre de Grigor Kelekian, dit Grégor, dont la formation, connue sous le nom de Grégor et ses Grégoriens, c'est assez rigolo je trouve comme nom, fait partie des meilleurs orchestres du moment, regroupant la fine fleur des musiciens de l'époque. Mais quand la guerre de 39-45 éclate, il se trouve en tournée avec le quintet du Hot Club de France en Angleterre. Le 3 septembre, lorsque les sirènes se déclenchent, Django est pris de panique et rentre aussitôt en France. Mais Stéphane, qui est malade, reste bloqué à Londres. Il y développe sa carrière de manière importante, peaufinant et affinant sa technique, son style, sa musicalité. Et du coup, il compose beaucoup. Il retrouve Django seulement en 1946. Et leur duo donne naissance à ce qu'on appelle maintenant le swing manouche. Tu connais, puisque tu vas peut-être nous en faire le 21 juin.
Oui, on va en faire.
Ah, super, j'ai hâte.
Quand ils se sont retrouvés, d'ailleurs, le premier morceau qu'ils ont enregistré, c'était la Marseillaise. Et c'est une version magnifique.
Ah.
La Marseillaise, guitare, violon, enfin, swing manouche.
Ah,
très beau.
Tu nous le joueras, ça, non?
C'est pas au programme, mais...
Pourquoi pas? Why not? Donc après, eh bien, il enregistre plus d'une centaine de disques avec les grands musiciens de la planète, notamment avec Oscar Peterson, Jean-Luc Ponty, Philippe Catherine, Michel Petrucciani, que moi j'ai vu il y a très très longtemps. Il était venu à Compiègne, à l'Espace Legendre.
Ah oui.
Voilà, je l'ai encore vu et c'était assez, assez fabuleux, ce petit homme-là qui jouait si bien du piano. Le chanteur Paul Simon, David Grisman et encore Yehudi Menuhin, il a joué aussi donc avec lui, sans oublier ses collaborations avec des grands noms de la musique du monde. Après avoir joué en quartet et trio avec guitare et contrebasse aussi, depuis le début des années 1970, il termine sa carrière au sein d'un trio comprenant Marc Fossé à la guitare et Jean-Philippe Viré à la contrebasse. Je vois que tu opines du chef, donc tu connais tous ces gens-là. Stéphane Grappelli nous a quittés le 1er décembre 1997, dans le 11e arrondissement de Paris. Il avait 89 ans. Comme quoi, la musique, ça conserve. Faites-en surtout, voilà, vive la musique vivante. Et pour ceux qui le souhaitent, eh bien, ses cendres reposent au columbarium du Père Lachaise. Alors, je vous propose tout de suite T42, cette fois, c'est la version de Stéphane Grappelli. Thank you. Eh bien, c'était la version de Tiforto jouée cette fois par Stéphane Grappelli. Et on a lu tout à l'heure la version de Yehudi Menuhin. Vous voyez, ça change. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur cette version de Grappelli ?
Moi, j'adore le jeu de Stéphane. J'ai pas pu. Je suis trop jeune pour l'avoir rencontré, malheureusement. Ouais, il a un jeu très élégant, une façon d'improviser. Unique, on reconnaît Grappelli dans tout le paysage du violon jazz, quoi. C'est, il a vraiment un jeu unique.
Et là, on voyait, il y avait aussi une alternance de solo, hein, violon, guitare, tout ça, bon, qui se fait en fait dans le jazz en général.
Ouais, c'est le jazz, c'est à l'origine, c'est les standards de Broadway, beaucoup, et de chansons populaires. Ce qui fait que quand Django et Stéphane ont créé le quintet en France, bah, ils prenaient aussi des airs populaires français, des chansons. Et donc ça consiste en, c'est ça, se prendre un air populaire et s'exprimer dessus, donc chacun son tour. Ou en impro collective également, la Nouvelle-Orléans, c'était à un moment donné, quand on veut mettre plus de tension dans la musique, le climax, peut-être que jouer tous en même temps, ça peut faire quelque chose. Donc après, il y a de toute façon ce qui s'appelle l'interplay, en français, je ne sais pas comment on traduirait ça en français, l'interplay, c'est...
On se motive les uns les autres, non, c'est pas un peu
on
ça.
On se répond, quoi. Oui, tu dis ça. Quelque chose, ouais. Je vais répondre, mais c'est pas forcément, voilà, c'est pas chacun son tour sous la forme de solo, c'est vraiment à la note près, c'est sur l'instant, il vient de s'être dit tel mot musical.
Donc l'autre répond, il prend la balle, quelque sorte.
Voilà, ouais,
c'est ça. C'est un peu différent justement de la musique classique où c'est bien, je dirais, au carré, hein.
Oh, on lit pas la partition qu'on lit.
En plus, c'est complètement différent. Ouais, tout à fait.
C'est la magie des standards, c'est ça qui est très qui est très chouette. C'est bon, aujourd'hui on les connaît plus ces standards, plus personne écoute du Broadway, c'est plus de la musique populaire, donc les, même si à l'origine c'était ça, mais par exemple pour l'ouverture du Festival des Forêts, c'est ça qu'on va faire.
Vous allez jouer.
C'est des standards de jazz et de jazz manouche, mais surtout de ce répertoire-là de musique. Et puis on fait des solos dessus. On s'exprime sur la grille, puisque les grilles sont, donc les trames harmoniques sont souvent très très belles. Il suffit de jouer dedans, d'en sortir aussi.
Voilà, c'est pour ça. Parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment la musique, il faut dire que la musique classique, on a des partitions écrites, alors que le jazz, ce sont des grilles. Donc des grilles d'accords sur lesquelles tu vas, comment on pourrait dire, broder.
Ouais, on fait de la mélodie, mais c'est la même chose que Chopin, Ravel, Rachmaninoff ou même Bach. On peut s'amuser à prendre du Bach et en extraire la grille, c'est-à-dire la trame harmonique.
Oui.
De toute façon, la musique baroque, c'est de l'improvisation sur des basses.
Tout à fait, données.
Elles sont données, mais la personne qui va créer le morceau peut les improviser et donc peut improviser sa trame au fur et à mesure, ou alors elle peut nous être donnée, comme quand on improvise sur un standard de jazz. Donc finalement, le phénomène est vraiment similaire, quoi. Il est très proche.
Ouais.
C'est le langage a évolué. Le blues est passé par là, avec donc 19e, avec ses nouveautés. On s'est permis des choses nouvelles qui ont elles-mêmes, comme dans l'histoire de la musique, de toute façon, par des phénomènes on comprend quelque chose de nouveau a posteriori, et du coup, on va lui donner un nouveau contexte et on va faire rentrer ça dans la norme, alors que ça ne l'était pas avant. Il y a 150 ans, ça ne se faisait pas de jouer comme on joue aujourd'hui, quoi.
Bien
ça
sûr.
N'existait pas.
Bien sûr. Ouais. Bah, c'est bien l'évolution quand même.
Ah, c'est bien.
Voilà, tout à fait. Et alors, je rebondis parce que tu as parlé de jazz manouche. Alors, justement, je voudrais en parler aussi parce que pour les Roms, la musique, en fait, demeure un moyen d'expression privilégié. Peut-être pour s'adresser à un monde qui ne manifeste pas souvent à leur égard beaucoup de compréhension, mais plutôt de la méfiance. En tout cas, ils ne laissent jamais indifférents. Peut-être justement parce qu'ils nous montrent en jouant leur indépendance, leur exubérance, leur capacité à vivre l'instant présent et leur lien très fort avec la nature. Alors pour ça, je voudrais vous faire écouter un ensemble qui s'appelle Julik. En fait, ce sont des musiciens de la région, dont Pierre Sespa qui est au violon. Et ça va être Nota, un chant, et une Xardas de, alors j'espère que je prononce bien, Diors. C'est une traditionnelle Hongrie. Thank you. c'était une brillantissime musique, hein, ce ouais. jazz manouche. Et alors, on a entendu un instrument vraiment particulier.
Hein ? Ah, le cymbalum.
Le cymbalum, alors je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est qu'un cymbalum. Comment on pourrait le décrire ? Ça fait un peu comme une table, on va dire. Une table plate avec des cordes. Et la personne qui en joue, c'est comme s'il avait des gros... On dirait des maillotches pour les percussionnistes. Je dirais des gros cotons-tiges pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des maillotches. Voilà. Et avec les baguettes, là, justement, bah, il tape, mais c'est extrêmement brillantissime comme jeu parce que ça va très, très vite. Et ce cymbaliste est vraiment brillantissime, je dirais.
C'est très virtuose, cet instrument.
Ah, ouais. C'était vraiment une belle xardasse. Là, j'espère, vous aussi, vous êtes régalés, mes chers auditeurs de Glissando. Alors on va continuer, ça y est, on continue dans les époques et cette fois avec un musicien qui est venu aussi il y a quelques années à l'espace Le Gendre de Compiègne, c'est Didier Lockwood. Il est né en fait dans une famille musicienne. Son père était instituteur mais aussi professeur de violon. Sa maman était peintre amateur, tandis que son frère aîné Francis deviendra pianiste de jazz. Sa famille paternelle, originaire de Birmingham au Royaume-Uni, a immigré à Calais à la fin du 19e siècle. Vous voyez, donc il est un peu dans les Hauts-de-France, là. Hein ? C'est bien pour nous, ça. À 13 ans, il a intégré l'orchestre lyrique du théâtre municipal de Calais. Mais en 1972, il obtient les premiers prix du conservatoire de Calais et de musique contemporaine de la SACEM pour sa composition pour violon préparé. Il admire la musique classique, mais initié par son grand-père pianiste Francis, il s'oriente très vite vers le jazz. Il découvre alors le violon amplifié. Le violon amplifié, c'est un violon, comme on va dire, pas électrique, mais enfin...
Ouais, avec un
micro. Violon amplifié, ça fait un peu bizarre comme terme, mais bon. Et préfère intégrer à la fin de l'année 1974 le groupe de jazz rock Magma plutôt que de tenter l'entrée au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Remarqué à ses débuts justement par Stéphane Grappelli, celui-ci lui propose de l'accompagner en tournée et le musicien ainsi collaborer avec de très nombreux artistes, de Miles Davis à Herbie Hancock, en passant par Claude Nougaro, Barbara, Jacques Higelin et bien d'autres. Pendant plus de 40 ans, il a occupé une place vraiment singulière dans le paysage musical à travers ses nombreuses rencontres et projets dans divers styles. Jazz fusion électrique, jazz acoustique, jazz manouche, jazz et musique classique avec le spectacle Le jazz et la diva avec la cantatrice Caroline Kazatsu qui était son épouse. Il avait reçu une victoire de la musique en 1985. Il enchaîne ensuite les albums avec différentes formations, notamment son fameux Didier Lockwood Group, DLG. Il joue en compagnie de Martial Solal, Michel Petrucciani, Michel Petrucciani, Aldo Romano, André Ceccaccherelli. J'y arriverai pas aujourd'hui, aide-moi.
Chez Carelli. Oui.
Merci. Miles Davis, Herbie Hancock, Elvin Downes, les frères Marsalis, Barbara, on a dit, Galliano, Nougaro, Richard Boringer, Jacques Higelin, enfin voilà, c'est vraiment un large spectre d'artistes. Il était aussi très impliqué dans l'éducation musicale. Il est auteur d'une méthode d'apprentissage du violon jazz, créée en 2001. Et je l'ai d'ailleurs, cette méthode, je l'ai. Je pourrais te la prêter si tu veux, si tu l'as pas.
Cordes et âmes,
ça. C'est un gros bouquin, très très intéressant. Et il avait créé en 2001 une école d'enseignement de l'improvisation, le Centre des musiques Didier Lockwood à Damary-les-Lys, dont il fut adjoint à la culture. Est-ce que c'est là que ton école ?
Absolument, c'est là. Alors cette année, donc ça déménage. Enfin, l'école déménage à Évry l'année prochaine. Mais oui, c'est là-bas. Alors bon, malheureusement, donc Didier est décédé il y a quelques années.
En 2018.
Ouais, voilà. Et donc j'ai pas pu le rencontrer. J'ai plein d'amis qui étaient à l'école de Didier il y a quelques années qui ont eu la chance de pouvoir étudier avec lui. Mais du coup moi j'étudie avec d'anciens élèves de Didier.
Ah oui.
Bastien Ribaud, Pierre-Marie Braillouep, D'autres violonistes extraordinaires. Et bon, c'est un terrain de jeu incroyable, cette école, puisque bon, voilà, on fait que jouer et travailler la musique tous les jours, toute la journée. Donc c'est
du bonheur.
Ah, c'est un monastère dédié à la musique avec des professeurs, des grands noms quoi, qui ont créé le jazz français. Benoît Souris, Sandré Charlier à la batterie. Enfin voilà, c'est des grands pédagogues, enfin des grands musiciens doublés de grands pédagogues. Ouais, le niveau est très 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 bon et l'ambiance est incroyable. Quoi.
En fait, c'est du travail sans être du travail. Hein, parce que des fois, les gens parlent du travail en courbant le dos. Alors que nous, musiciens, c'est du bonheur.
Ah oui, oui.
On fait des heures, mais pour justement atteindre un certain niveau, que ce soit beau justement pour soi et pour les autres aussi, bien sûr. Hein, mais bon, on ne calcule pas nos heures. Hein, c'est vraiment du bonheur. Et en fait, Lockwood, il avait aussi remis en 2016 un rapport au gouvernement sur l'apprentissage de la musique. Il s'inquiétait d'une enfance formatée par la technologie moderne et en panne de sens, disait-il, et il prônait une éducation par plus d'oralité et moins de solfège. Tu vois, il était déjà quand même assez avant-gardiste, parce que on revient un petit peu là-dessus. Parce que c'est vrai qu'on voit dans les écoles de musique, les élèves, ils n'aiment pas trop le solfège. Mais bon, tout dépend comment on va leur apprendre. Mmh. Et moi, je dis, le solfège, c'est un peu la grammaire de la musique. Hein, il faut savoir lire les notes comme on sait lire des textes en français ou dans d'autres langues. Et en français, on a des règles de grammaire. Bah, y a des règles aussi en musique qu'il faut connaître et qu'il faut apprendre. Mais voilà, de quelle façon
hein. Ouais, c'est assez un sac de nœuds, ouais. Ce problème de l'éducation, c'est facile d'enseigner quelque chose à quelqu'un qui nous pose une question, parce qu'il vient de poser la question. C'est vrai que c'est plus difficile quand on veut que nos enfants fassent de la musique et on comprend ce phénomène, parce qu'on a envie de transmettre cet amour de la musique. Et c'est vrai que ça peut être délicat de transmettre à...
Tout à fait.
Comme n'importe quelle matière, finalement.
Oui, tout à fait. Puis il faut aimer. Il faut aimer. Ouais. Alors, je vais te faire une confidence. Bon, moi, j'ai fait du violon à partir de l'âge de 7 ans. Puis des fois, je n'étais peut-être pas très contente de travailler. Et ma maman, qui me faisait justement travailler, me disait, mais pourquoi tu te plains? Tu ne travailles pas? On dit, on joue du violon. Et c'est vrai, c'est ça. On joue et on joue et on joue. Et puis, on se fait plaisir. Et voilà. Et c'est du bonheur. Puis, en fin de compte, on n'arrête plus.
Oui.
On fait comme Stéphane Grappelli, on fait comme Didier Lockwood qui est malheureusement mort le 18 février 2018. Il avait 62 ans et il est mort brutalement d'une crise cardiaque à Paris. Et il est inhumé au cimetière de Montparnasse. Et bien du coup, je pense qu'on va l'écouter dans deux morceaux, Minor Swing de Django Reinhardt et Misty d'Errol Garner et Johnny Burke. Comme ça que tu dis Burke.
Ouais, oui. Bon. Voilà. Très bien dit.
Écoutons. Thank you.
Thank you.
Merveilleux Didier Lockwood et son équipe. Hein, c'est, ouais. C'est sublime, hein, cette façon de jouer, là, vraiment. Grand violoniste.
Ouais, ce disque est trop bien avec Birelli à la guitare. Ce qui est incroyable chez ces gens-là, c'est que c'est en impro, hein, ils mettent le micro et puis l'album il est enregistré en une prise sans savoir ce qui va se passer dans le morceau. Quoi.
C'est ça le grand art.
C'est le jazz.
Voilà, c'est ça. Alors, je rappelle quand même, avant de continuer Glissando, notre émission de musique classique, mais pas que. D'ailleurs, vous voyez qu'elle n'est pas que, puisque aujourd'hui, on fait du jazz. Voilà, c'est un petit peu pour illustrer le Festival des Forêts, qui aura lieu du 21 juin au 14 juillet prochain. Et 21 juin, c'est là. Et du coup, avec un ensemble de jazz, avec Jonathan Serbib. Peut-être tu peux donner les noms de tes musiciens ?
Avec plaisir, oui. C'est donc... le quartet Isara, qui est le nom de la rivière Oise en latin, c'est le nom antique, ça s'appelait comme ça. Donc avec Solal Türkpuk à la guitare, en l'occurrence guitare manouche acoustique, des guitares bien particulières. Baptiste Gilbert Morizur à la guitare électrique, et puis Antoine Morera à la contrebasse. Voilà, donc il va y avoir, ça va être une espèce de C'est un combo assez original, voilà, croisé entre jazz et jazz manouche, enfin swing, standard bebop, donc une esthétique plus électrique avec Baptiste et l'esthétique manouche avec Solal. Voilà, donc c'est une espèce de croisée de mondes musicaux très très virevoltant et onirique.
C'est formidable, on va découvrir tout ça donc très très bientôt et j'en suis ravie. En plus dans ce beau décor, puisqu'on sera à côté de l'Oise, tu parlais d'Isara, voilà. On sera à côté de l'Oise, c'est merveilleux, on ne pouvait pas faire mieux pour le Festival des Forêts. Alors on va continuer un petit peu quand même avec le jazz, cette fois je vous emmène avec Michel Legrand. Tout le monde connaît pratiquement Michel Legrand, compositeur, interprète, arrangeur français, né à Paris, il avait fait de brillantes études au Conservatoire de Paris. Il ne s'est pas contenté de devenir musicien de jazz en tant que soliste, mais il a fait en sorte aussi que son orchestre swing dans la meilleure tradition, celle de Count Basie, Duke Ellington ou de Gillespie. Gillespie, c'était le fameux trompettiste qui avait les grosses joues,
c'est ça.
Voilà, les professeurs de trompette diraient « Oh non, on ne fait pas ça
!» Je ne sais pas s'il les dirait en face.
Mais en fait, même s'il gonflait ses joues pour jouer, il était génial. Alors voilà, c'était un grand, grand musicien. Michel Legrand est né dans une famille de musiciens. Son père, c'était le compositeur Raymond Legrand. Son oncle était Jacques Elian, qui était chef d'orchestre. Sa sœur, Christine Legrand, fera une carrière de chanteuse jazz. Voilà, une grande famille. Eh bien, bien sûr, il a composé, par exemple, les Parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort, Peau d'âne. Il a fait plein de choses que vous connaissez certainement. Et on va écouter donc un extrait. Il dirige les grands géants du jazz américain, là, et ça va s'appeler Nuages.
Thank you.
Eh bien voilà, c'était un petit peu de Michel Legrand, pour vous donner un petit peu une idée de ce qui se faisait aussi avec Michel Legrand. Mais donc cette émission sur le jazz, c'était justement pour vous parler plus précisément du jazz. Et je pense que Glissando va vous dire au revoir. On va dire au revoir à Jonathan.
Merci.
À très très bientôt, de toute façon. Ouais. À très bientôt au bord de l'Oise.
Ah, ouais,
hein, et puis, eh bien, moi, je vous propose de terminer cette émission justement avec ce cher Didier Lockwood qui nous a quittés, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, mais qu'on va vraiment beaucoup regretter. Au revoir, Jonathan.
Au revoir, Isabelle.
Au revoir,
merci.
Tout le monde. Thank you.